écrivain, il y a deux choses redoutables. La première, c'est l'échec, et la deuxième, c'est le succès.
14h, 15h, la voix est libre.
Ouvrir un livre et rentrer dedans quand c'est une belle histoire, c'est un merveilleux voyage pour pas un rond, quoi.
Jamais on écrit pour être connu. C'est autre chose. C'est pour parler, certainement. C'est pour raconter quelque chose à quelqu'un.
Nicolas Caro.
Bonjour à tous et bienvenue dans La Voix est libre. Cette semaine, mon invité, ah là là, on l'adore dans l'émission, Nicolas Rey, vient nous parler de son nouveau roman, un polar en plus, incroyable. Visite de bibliothèque toujours, celle d'Olivia de Lamberterie cette semaine. Et à la fin de l'émission, je réunis tout le monde, libraires, chroniqueurs, littérature, jeunesse et bande dessinée, pour faire une sorte de mezzé littéraire où tout le monde trouvera de quoi lire. Mais d'abord, donc, c'est l'invité, La Voix est libre, c'est parti. Premier chapitre. Bonjour Nicolas Rey.
Bonjour Nicolas.
Comment ça va ?
Excessivement bien.
Waouh !
Mais là, je peux le dire pour une fois. Je vais avoir 50 ans et pour la première fois de ma vie, ça va excessivement bien.
Incroyable, parce que votre narrateur aussi, il va avoir 50 ans, il a 49 ans, il s'appelle Diego Lambert. Donc on pourrait croire que c'est encore une forme de Nicolas Rey, le narrateur de son propre roman, comme souvent. Mais alors, c'est un peu le cas, mais surtout, la grande nouveauté, c'est que c'est un polar.
Oui, c'est une fiction.
Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi un polar ?
Mais parce que, normalement, je faisais des réalités un peu dilatées de ce que je vivais, parce que j'avais des trucs à raconter, des addictions. Et j'en ai plus. Je suis heureux. Le bonheur écrit blanc. Donc il fallait une fiction cette fois-ci, vous voyez ? Parce que si je raconte ma vie, je suis tellement heureux avec ma compagne, avec mon fils, avec mes beaux-enfants, que ça va faire chier tout le monde. Donc il fallait un polar romanesque.
Mais en fait, je fais l'étonner, mais pas tant que ça, parce que la dernière fois que vous êtes venu pour parler de votre roman, c'était La Marche d'erreur, on est passé devant mon armoire de livres, et vous m'avez demandé si j'avais pas quelques polars à vous prêter, parce que ça vous intéressait. Mais pas qu'un seul, c'est-à-dire que je vous en ai envoyé une dizaine, quoi.
Ouais, je les
ai
tous dévorés.
Et en fait, c'était des recherches.
Ouais,
c'était,
ouais.
C'était du travail et de documentation pour votre propre polar.
Oui, mine de rien, c'était déjà une petite investigation. Il y a un John Le Carré qui m'a bien aidé, il y en a d'autres. Et puis je suis allé chercher aussi du côté des John Esbo, du personnage de Harry Hall, et puis d'autres trucs comme ça. Et je me suis gavé de polar pendant 2-3 ans, et ça m'a pas mal aidé.
Mais ça a été quoi le déclencheur ? Pourquoi un polar plutôt qu'une autre fiction ? Parce qu'on a compris que le bonheur écrivait blanc, donc c'est plus la peine de raconter votre vie à vous, mais vous auriez pu choisir un autre type de fiction. Est-ce
oui.
que vous étiez particulièrement intéressé par le polar ?
Oui, en fait, ce qui m'intéressait plus précisément, c'était la phrase d'Hitchcock que je mets au début du livre, à savoir « Tuer quelqu'un, c'est difficile, douloureux, mais c'est surtout long, très 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 long. » C'est-à-dire que c'était pas le crime en soi, la limite, je dirais pas que tout le monde peut le faire, mais presque. Mais un peu comme dans Crimes et délits de Woody Allen, ce qui est intéressant, c'est la suite, surtout quand on ne se fait pas choper. À quel point on n'est plus jamais seul, à quel point le mort commence à vivre en vous une fois que vous l'avez assassiné, à quel point il vous habite constamment, à quel point on ne peut plus vraiment trouver le sommeil, à quel point vos rêves sont hantés par sa personne. Et ça m'intéressait de voir qu'on ne peut plus être tout à fait heureux après avoir commis un tel acte, malgré le temps qui passe et les années. Et ça m'intéressait beaucoup de raconter ça.
Et ça ne vous intéressait pas de faire ce qu'on appelle une narrative non-fiction, c'est-à-dire enquêter sur un fait divers et vous mettre en scène dedans pendant que vous enquêtez ? Je vous aurais bien vu faire ça.
J'y ai pensé, mon Nicolas
Carré. Ah ouais ?
J'y ai pensé. Parce que je suis un fan depuis Nefertiti dans un champ de canne à sucre de Philippe Janada. Et je continue à le lire. Et pourtant, Dieu sait que normalement, les pavés de 700-800 pages, ça me fait un peu peur. Je les dévore, ce Janada. La petite femelle, la serpe, tout ça, je les ai dévorés. Et peut-être qu'un jour, je le ferai. Je ne me sens pas encore le courage d'investiguer comme il est capable de le faire d'être derrière mon écran à taper des recherches et puis d'y aller et tout ça. Mais par exemple, la mère de mon fils, elle vivait, sa grand-mère vivait du côté d'Albi. Et l'affaire Jubilard, j'y ai pensé beaucoup. C'est marrant que vous me disiez ça. Vous me connaissez tellement bien. J'ai pensé à ça. C'est pas impossible qu'un jour je le fasse. Ouais. C'est pas impossible.
Je serais curieux de lire ça. Mais en tout cas, c'est bien aussi de préserver un peu la fiction, parce qu'on est en train de la laisser de côté, ouais. La fiction que j'adore
et
tellement.
Puis, et puis
tout le monde veut mettre de la vérité.
Il y a un autre bémol, c'est que c'est Janada qui le fait avec un tel génie que... C'est,
ah oui, voilà. Mais vous le feriez à votre manière.
C'est gentil, merci.
Je résume, Crédit illimité, c'est le titre de ce nouveau roman, Au diable Vauvert, comme toujours. C'est l'histoire de Diego Lamberg, donc, qui a 49 ans et qui est romancier, qui a écrit quelques romans prometteurs,
oui,
mais qui
plus.
Se vendent mal.
Oui,
et
plus,
là,
ouais.
Ça ne va pas du tout parce qu'il n'a plus un sou. Il est en train d'investir ses tout derniers sous, justement, dans un café en terrasse. Et puis même pour prendre le taxi pour revenir chez lui... Parce qu'il n'est pas encore prêt à prendre le métro. Voilà, psychologiquement, il faut qu'il s'y fasse doucement. Parce qu'il vit dans un loft. Au départ, il était quand même assez riche. Parce que son papa est riche. Mais il a taxé sa sœur. Il a taxé sa grand-mère, qui lui a avoué que de toute façon, ça l'arrangeait parce qu'elle n'avait pas beaucoup ses autres cousins. Mmh. Mais maintenant, il est obligé d'aller voir son père, qui est un grand patron à la Défense, qui a beaucoup d'argent, mais qui est un type à la fois charismatique et très, très pervers. Et donc, il déteste devoir aller lui demander de l'argent. Mais bon, c'est ça où travailler. Sauf que quand il arrive, son père a un sac à côté de lui. Il lui dit, mon fils, il y a 50 000 euros dans ce sac. C'est pour toi, à une condition... Tu remplaces une de mes DRH dans une de mes sociétés de désherbants à Saint-Omer, une DRH qui est en congé maladie, tu la remplaces pendant un mois, tu gagneras 50 000 euros. Sache que quand même, il y a 15 personnes à licencier. Et il se dit, bon...
Au départ,
ouais,
il se dit, pourquoi
50 000 euros
pas.
Pour un mois de travail, c'est très très cher payé.
Oui, non, il se dit... En fait, je ne vois pas le problème au départ. Je dis, bon, il est assez cynique au départ, assez revenu de tout. Je dis, bon, écoutez, 15 personnes à licencier, c'est une formalité, je vais faire ça tranquillement. Et puis, il se trouve que pour les licenciés, la moindre des choses, c'est de les rencontrer. Et ces salariés, ça va devenir des personnes à part entière, des êtres humains faits de chair et de sang, avec un passé, une histoire... des failles, des maladies, des crédits à rembourser, et il ne va pas trouver le courage de les licencier. Ou plutôt, si, il va trouver le courage de ne pas les licencier. Là, l'histoire va vraiment commencer, les problèmes vont commencer, et l'aventure pour Diego et l'idée perverse qui va germer en lui va pouvoir s'instaurer.
Mais alors, ce faisant, il y a une partie géniale dans le bouquin, c'est la série d'entretiens, parce qu'il reçoit tous les licenciés qui savent très bien à quelle sauce ils vont être mangés.
Ouais.
Et lui, il les reçoit et il parle un peu avec eux. Il leur sert une bière, parce qu'il s'est fait installer un frigo
minibar, ouais.
dans son bureau. Il leur sert une bière ou un whisky pour discuter tranquille. Sauf que lui, c'est un petit con. Quoi.
C'est, bah, c'est un petit con, oui.
Il ne sait pas ce que ça représente. À la fois, il est touché en même temps.
Oui, il est
pour
loin
lui,
de ça.
Ça se passera bien. Quoi.
C'est la première fois qu'il découvre le monde ouvrier. Quoi. Donc, c'est Tintin chez les Tintin l'usine. Quoi. Il comprend rien à tout ça. Donc c'est ce qui était amusant à écrire, c'était le décalage entre ce bobo parisien et puis ce monde ouvrier qui était vraiment mal, quoi, qui était en dépression parce qu'ils vont être licenciés, ces gens-là, et qu'ils ont des crédits à rembourser, et que ça va pas du tout. Souvent, le couple, la femme et l'homme sont licenciés, donc c'est le monde qui s'écroule, ils arrivent ensemble pour l'entretien. Et donc le décalage que j'ai voulu drôle, sarcastique, et puis en même temps humain, entre ce type et ces gens, ces pauvres gens, ces petites gens de ouvriers à l'usine de Saint-Omer.
On sent que ça vous passionne, parce que vous avez essayé un peu de mettre différents sociotypes,
oui.
Et puis aussi différentes situations et différentes réactions à une annonce comme celle-là.
Oui.
C'est-à-dire qu'il y a les types désespérés, et puis il y a celui qui dit, j'ai mon potager, je me suis préparé,
en fait
j'en avais ras-le-bol, ça va très bien se passer.
Bah, en fait, ça me passionne parce que je l'ai vécu, j'ai travaillé un mois quand j'étais en école de commerce, en usine, dans une usine justement de désherbants, d'engrais, de phytosanitaires à Bernay, en Normandie. En fait, on avait un stage à faire en entreprise. Tous mes camarades avaient fait le choix de au service marketing, dans des grosses boîtes de pub, etc. Et moi, à l'époque, j'avais des convictions très très à gauche, et j'avais voulu travailler à l'usine. Et il se trouve que cette usine allait fermer. Et je m'étais acheté d'ailleurs, donc j'ai rencontré ces gens-là, qui étaient très très fiers de leur boîte. Comme on peut être fier de travailler en usine pour Philip Morris, hein, c'était pas forcément le... Eux, ils se considéraient pas comme pollueurs, même s'ils bossaient pour des errements, c'était leur boulot, ils étaient fiers de leur boîte. Et surtout, j'avais compris, j'étais venu avec un tas de bouquins en me disant qu'en fin d'après-midi, quand j'allais sortir de l'usine, j'allais pouvoir, dans ma petite piole d'hôtel, lire. Et là, j'ai découvert à quel point ce boulot pouvait te presser le cerveau totalement. J'étais incapable de lire une ligne. J'étais bon qu'à regarder La Roue de la Fortune sur TF1, quoi. Mon temps de cerveau disponible était bon
qu'à ça. Psychologiquement, c'était
ça te ruine,
très dur.
Ça te demande de la concentration, ça te demande tout.
On se retrouve dans un instant pour continuer à parler de Crédit illimité, le nouveau roman de Nicolas Rey. À tout de suite.
La Voix est livre.
Nicolas Caro.
La Voix est libre continue toujours avec l'immense Nicolas Rey pour Crédit illimité, son nouveau roman Au diable Vauvert. Un polar, dis donc, une fiction, une vraie, pour du Nicolas Rey, c'est incroyable. Vous êtes toujours avec nous, Nicolas. Je rappelle que c'est l'histoire de Diego Lambert, 49 ans, fauché, et dont le père est un type très charismatique et très pervers, qui lui propose 50 000 euros en échange d'un remplacement d'une de ses DRH dans une usine de désherbant à Saint-Omer, pour virer 15 personnes. Il arrive, il commence, et en fait, il se dit, cette entreprise est très rentable, il n'y a aucune raison de virer ces gens-là, et tout ne se passe pas comme prévu. Mais je voudrais d'abord revenir au père, parce que dans tous vos romans, quasiment, votre père, mais votre vrai, enfin, votre l'alter ego littéraire de votre père, dans chacun de vos romans où vous parlez plus de vous, même si c'est dans une réalité dilatée, comme vous dites, et à chaque fois, c'est un saint homme. C'est-à-dire que votre père, on sent que sans lui, la vie serait beaucoup, beaucoup plus dure, qu'il vous a beaucoup aidé, beaucoup soutenu, beaucoup aimé, en fait. Mmh. Et à chaque fois, c'est bouleversant dans vos romans, et j'en parle à chaque fois que je vous interview là-dessus, sur le rapport avec votre père. Mais là, dans la fiction, c'est l'inverse. Mmh. C'est quasiment le diable.
Ouais. Mais parce que quand c'est pas la fiction, et que c'est... pas non plus la réalité, même une réalité un peu dilatée. C'est dans la vie quelqu'un plus qu'important. C'est, je ne pourrais jamais vivre sans lui. C'est quelqu'un qui ne cesse de m'aider, de me soutenir. Là, en ce moment, je suis en train d'emménager avec ma femme dans l'Essonne. S'il n'était pas là, je ne sais pas comment je ferais, quoi. C'est le roi du bricolage, de l'électricité, etc. Et il a toujours été là pour moi. Et Dieu sait que j'ai vécu des moments difficiles et douloureux. Il n'a jamais eu honte de moi, même face à un addictologue et de ceux qui l'en ont rencontré et qu'ils n'avaient pas forcément de bonnes nouvelles à lui annoncer. Même face à un principal de collège ou de lycée, Dieu sait qu'ils n'avaient pas forcément des nouvelles agréables à lui annoncer. Et voilà, donc j'assume totalement. Et là, c'était une fiction, donc dans une fiction, oui... tous les coups sont permis, et je n'ai pas du tout une seconde pensé à lui en écrivant ce livre. C'était, si vous voulez, l'idée de... Alors, je comprends l'idée de farce d'Ipienne que vous pouvez imaginer dans la fiction.
Non, je n'allais pas jusque-là, je voulais signaler si vous vouliez.
Non, mais
je n'aime pas
c'est
trop
truc...
tirer sur ces symboles-là, ça m'intéressait.
Encore une fois, là, ce qui m'intéressait, moi, c'était pas l'idée de tuer le père, c'était l'idée du crime. Et ça, là, j'ai divulgué un peu le bouquin, mais tant pis. Ça m'intéressait beaucoup, en fait.
Il fallait un méchant, quoi.
Ouais. Mais il fallait un méchant pas totalement noir, plus intéressant qu'il n'y paraît. C'est-à-dire que, par exemple, ce méchant, il est adoré de ses salariés. Ouais. Ce méchant, une fois qu'il n'est plus... Diego réalise combien il est important pour lui. Tous les bons souvenirs de son père remontent à la surface. Et voilà, et ça m'intéressait de voir que même quelqu'un aussi a priori détestable, il est plus complexe qu'il n'y paraît. Et voilà, c'est les zones grises qui m'intéressent chez les personnages.
Alors attention, exercice de funambule, ne racontez surtout rien du meurtre dans le livre,
non.
Mais expliquez-nous comment vous avez fait pour élaborer ce meurtre de fiction, parce que c'est quasiment un meurtre parfait, c'est-à-dire que même dans les meilleurs polars, c'est compliqué de faire aussi bien. Il y a plein de trucs, plein d'idées Ouais. C'est presque flippant de savoir que vous êtes capable de mettre au point un plan aussi machiavélique. Quelle a été votre documentation ?
Alors, ma documentation, c'est beaucoup de films, beaucoup de séries, beaucoup de lectures de polar et une discussion une nuit avec un flic.
Ah !
Voilà.
Et qui vous a donné les tuyaux ?
Ouais.
Mais par exemple, il vous a dit quoi ?
Bah, il m'a expliqué l'idée des caméras de surveillance, comment ça se passait. Ne pas se faire gauler avec ça. L'idée du... Enfin, je peux pas tout raconter. Mais voilà, il m'a expliqué différents trucs. Du badge visiteur.
Il vous a parlé des empreintes, des écoutes téléphoniques.
C'est ça, exactement. L'idée de laisser son portable... Enfin, toutes ces choses-là, en fait, qui sont dans le livre... Pour pas pouvoir être tracé à cette heure-là, l'idée du rendez-vous avec Marcel Ponte, etc. Enfin, tout ça, préparer tout en amont pour éviter de se faire gauler en aval, quoi.
Et il y a l'idée de désigner un coupable aussi.
Ouais, ouais. Bah ça, c'est
donner
ça,
un coupable en pâture.
Bah oui, c'est l'un des... En fait, oui, c'est l'un des conseils qu'on m'a donné. C'est pour éviter de... Oui, c'est un coupable idéal, c'est ce qu'il y a de mieux dans ces cas-là. Ouais.
Et vous êtes fait peur ou pas, après avoir écrit ça?
Je sais pas. Non, je dors bien quand même.
Vous dormez bien, mais il y a un de vos personnages qui ne dormira plus jamais très bien.
Ah non, non, non.
Parce que c'est un complice, je marche sur des œufs pour pas en dire trop, mais il y a toujours quand même, et ce complice, allez, je vais changer le sujet, c'est-à-dire que ce complice, on le reconnaît, c'est un de vos personnages fétiches qui vous accompagne dans vos romans comme dans la vie. Évidemment, dans vos romans, c'est pas du tout le même. Et il y a comme ça deux, trois personnages qui reviennent, c'est-à-dire que j'ai dit au départ que vous faisiez de la fiction, que vous parliez pas de vous, mais en fait, vous pouvez pas vous empêcher, même dans une fiction, on reconnaît votre galerie de personnages qui reviennent de temps en temps. Quoi.
Oui. Alors là, c'est un nouveau complice qui est là depuis 2-3 livres. C'est Mathieu Saïkali, que j'ai rencontré avec Les Garçons Manqués. Donc
qui est le guitariste qui joue pendant que vous lisez.
Voilà, qui est un génial guitariste et chanteur. Et puis là, ça me faisait marrer de faire ce jeune très, très dans l'esprit 2022 qui, même quand on est au 33e étage d'une tour de la Défense, retire ses chaussures pour être pieds nus afin d'être plus proche, de sentir plus proche de la Terre, quoi. Et voilà, ça m'amusait de faire un personnage comme ça, un peu lunaire et très de son temps, très écolo, voilà, très urbain.
Et alors, il y a une histoire d'amour, évidemment, aussi.
Ah oui. Ah oui.
Et ça, on va en reparler dans un instant.
D'accord.
Europe 1, 14h, 15h, La Voix est libre.
Nicolas Carreau.
La Voix est libre continue toujours avec Nicolas Rey pour son nouveau roman, Crédit illimité au Diable Vauvert. Et c'est un polar incroyable, un polar de Nicolas Rey. Simplement, il ne peut pas s'empêcher de mettre quand même certains de ses personnages qu'on rencontre dans ses... autres romans, mais qui ont une autre forme dans celui-ci. Et puis, il ne peut pas s'empêcher non plus d'intégrer une histoire d'amour à son roman, même si c'est un polar. Et en l'occurrence, c'est la psy du héros.
Oui. Oui.
Et il y a un transfert manifeste, même si lui le nie complètement. C'est un classique chez un psy.
Chez un psy, oui. Enfin, chez le patient, surtout. Moi, en fait, j'ai voulu un peu me venger parce que j'ai passé ma vie à tomber amoureux de mes psys, filles comme garçons. Ça n'a jamais réussi. Donc là, je voulais au moins que dans un bouquin, ça réussisse. Et puis, Diego, ça fait 2 ans que toutes les semaines, il voit sa psy. Il est fou amoureux d'elle. Et puis, un jour, il se dit banco, quoi. Je tente le tout pour le tout. Donc, il arrive à sa séance. Et au lieu que ça soit une séance ordinaire, il lui crache sa flamme pendant plus d'une heure. Et il lui donne une enveloppe où il lui a écrit à chaque séance une nouvelle. Il lui donne cette enveloppe. Et en fait, une fois de plus, comme après le crime qu'il commet, il chevauche la morale parce que cette femme,
elle est mariée,
elle est bien en ménage, elle a un mari, 2 enfants, un pavillon, un garage, 2 voitures et certainement des patins dans sa baraque de cinglé. Et elle est heureuse. Et ce type-là, c'est un type qui est tout sauf un type qui est son genre, quoi. Vraiment, c'est la pire des choses qui pouvait lui arriver. Et on dira pas ce qui va se passer, mais ça va se passer. J'en profite pour souhaiter un bon anniversaire à la femme de ma vie, qui a eu 40 ans hier.
On l'embrasse.
Voilà, on l'embrasse. Et voilà. Et Diego, il veut faire quoi avec cette 50 000 euros ? Il veut pouvoir l'inviter au bord de la mer les soirs où elle aura trop peur de mourir. Il veut, comme moi, une fois qu'il a économisé un peu d'argent en n'ayant plus ses addictions, pouvoir l'inviter comme moi, parce que j'ai passé une soirée extraordinaire chez Pierre Guénière au Gaïa, et ça c'est génial. Ah bah. Et je conseille aux gens,
oui bah.
Aux toxicos, je leur dis, vous faites quoi? Vous arrêtez d'acheter 2 grammes de coke, ça vous fait 160 € et vous prenez le menu homard chez Pierre Guénière à la place au Gaïa, c'est 100 fois mieux.
Ah, ça serait drôle, un mec qui est addict au restaurant étoilé.
Eh ben, c'est la meilleure addiction possible. Ouais. Ce type-là, en fait, il t'emmène sur des terres inconnues avec un produit que tu connais déjà. Il est capable de transcender un navet. Il est capable de... Un plateau de fruits de mer, il t'en fait un truc. Par exemple, moi, j'aime pas l'huître. Il t'a fait d'une huître un feu d'artifice. Écoutez, je vous promets, maintenant que j'ai un peu plus d'argent, je vous promets que je zappe le tartare de saumon que je vous ai promis la dernière fois et je vous invite chez Pierre Guénière. Nicolas Caro, je vous donne ma parole.
Ah, il y a Agnès Vaudin qui travaille pour l'émission derrière ça la vitre qui, et Boris Paczynski qui demande à être de la partie.
Bon, ça marche, ouais. Ça marche. Ok, d'accord. Ça, on ira voir déjeuner alors, on se prendra le menu déjeuner.
Il va falloir en vendre pas mal quand même, Nicolas.
Cette émission... part en live totalement. À chaque fois, on tient bon au début.
On part raisonnable. Et puis
à chaque fois, on part aux sucettes. La dernière fois, c'était le tartare de saumon. Là, c'est le Gaïa chez Pierre Guénière. Mais voilà, c'est comme ça.
Il va falloir en vendre pas mal parce que justement, il y a un truc très beau dans le roman, ouais. C'est que vous parlez de la cruauté d'être fauché quand on est amoureux.
Mais oui.
Ben oui.
C'est pour ça que je vous dis ça. Ouais. C'est une cruauté terrible.
Mais en même temps, et vous le prouvez dans le roman, on ne dira pas comment, sauf si vous voulez le faire. Évidemment, ça excite l'imagination et ça permet de créer autre chose avec très peu d'argent, mais de créer quand même de l'amour.
Ouais. Parce que je l'ai vécu.
Ouais, parce que c'est pas la partie thriller.
Je l'ai vécu. C'était avec la femme de ma vie, donc j'étais hospitalisé à Corentin-Celton, à Issy-les-Moulineaux. Et donc, j'avais pas de droit de sortie ni rien. J'étais. Voilà, un service addictologie, il y a de nombreuses années. Et elle devait me rendre visite une après-midi. Et donc, j'avais fugué. Mais je ne pouvais pas aller très loin. Et donc, il n'y avait pas d'hôtel. Et en fait, il y avait un hôtel, mais genre un hôtel de passe pourri, qui s'appelait le Luxor, un hôtel borgne.
Ah, il s'appelait le Luxor, comme dans le roman bouquin.
Et en fait, j'ai réservé la chambre. Et c'était mi-novembre. Et donc, je suis allé au Monoprix du coin. Et j'ai acheté, heureusement, il y avait déjà les produits de Noël disponibles. J'ai acheté un sapin de Noël, une guirlande électrique, des boules de Noël, des bougies. Puis j'ai acheté quelques cadeaux, un plaid, un panier en osier. J'avais acheté, il y a quelques semaines avant, on avait tourné en Suisse avec les garçons manqués. J'avais acheté un quartz d'amour. J'ai préparé tout ça. La femme du patron, me voyant faire tout ça, tout le monde dans l'hôtel s'y est mis. Elle m'avait préparé des cornes de gazelle et tout, parce qu'elle me dit qu'il faut manger en même temps. J'avais préparé du champomis que j'avais mis dans un seau à champagne.
Bah oui, parce que j'avais dans le service addictologie.
Bah oui, il fallait mieux. J'avais mis mon poste FM voilà, pour mettre un peu de musique, un fond d'ambiance. Elle passe me chercher devant Corentin-Celton, l'hôpital. Et puis on arrive au Luxor. Et puis là, elle dit qu'est-ce que c'est que cet endroit ? C'est un hôtel pute, quoi. Et puis là, elle me voit dire bonjour au directeur de l'hôtel. Elle me dit, mais tu viens là tout le temps alors? Je dis, non. Et puis, la femme de ménage me dit bonjour et tout. Et puis là, j'ouvre la porte et elle voit le palais féerique que j'avais fait. Et puis voilà, on a passé une belle après-midi, je dirais pas la suite, quoi.
Mais le plus fort, c'est que donc il y a chaque cadeau correspond à un rêve que vous avez avec elle.
Le plaid, mais que je ne peux pas encore réaliser.
C'est pour ceci. Le panier en osier,
c'est pour les pique-niques qu'on fera sur la plage. Voilà, ouais, c'est ça. Mais je l'ai vraiment fait. Ouais.
Au départ, est-ce que vous vous êtes dit, en commençant le polar, parce que c'était vraiment votre impulsion de départ, est-ce que vous vous êtes dit, et puis je mettrai mon histoire d'amour, et cette scène-là que je voulais mettre, et cette scène-là que j'avais pris en note, etc. Ou est-ce que c'est malgré vous, il y a un moment, crac, ça s'est dessiné.
Oui, l'histoire d'amour avec Anne Bellet, je voulais la mettre, mais en fait, je n'avais pas réalisé que que j'allais raconter ça. C'est venu quasiment malgré moi, tout ça. C'était comme une évidence. Il fallait que je raconte ça. Autant c'était très, très structuré, ce que j'ai raconté par rapport au crime, par rapport au suspense social, par rapport au licenciement, par rapport à la façon dont il va éviter ça, dont il va réunir le comité d'entreprise et tout ça. Tout ça, c'était très, très, très structuré, la fin aussi. Mais Anne Bellet, c'était quasiment écrit malgré moi, quoi.
Comment vous choisissez les patronymes de vos personnages? Anne Bellet, Diego Lambert et son père Antonio Lambert. Et tous les ouvriers, vous avez un nom.
Oralement, il faut que ça sonne juste. Et après, ça va vous paraître stupide et dérisoire, mais je vous dis tout, mon Nico. Il ne faut pas que mon ordinateur, mon PC, me fasse un petit trait bleu en dessous.
Ah, comme si ça va rester.
Sinon, ça reste et ça me gêne.
Parce que ça le fait si ce n'est pas vraiment un...
Ouais, par exemple, Lambert, prénom, il accepte. D'accord. Mais si j'écris Lanry avec un Y, il va me dire que c'est mal écrit, mal orthographié. Donc,
après,
par exemple, le commissaire Navarin, j'écris Navarin parce que Navarin, il prenait. Mais je ne voulais pas écrire Navarin. Je voulais écrire parce que Navarin, ça faisait Navarin d'agneau, je n'aimais pas. Mais j'avais écrit un autre truc, mais il ne voulait pas. Donc, voilà. Donc, c'est vraiment.
À quoi ça tient?
Ça ne tient pas grand-chose.
Magnifique. Merci beaucoup, Nicolas Rey. Crédit illimité, c'est votre nouveau roman, encore génial, au Diable Vauvert. Merci beaucoup, Nicolas. À bientôt.
Merci à vous, Nicolas Caro. Beaucoup.
Dans un instant, visite de bibliothèque, évidemment. Nous partons chez Olivia de Lamberterie.
Europe 1, 14h, 15h, La Voix est libre.
Nicolas Caro.
La Voix est libre continue, il est l'heure de visiter une bibliothèque. Je n'avais jamais rencontré la journaliste du L, Olivia de Lamberterie. Elle vient de publier son nouveau roman chez Stock, « Comment font les gens ?» L'histoire d'Anna, éditrice sous les ordres d'un tyran, emmêlée dans son boulot, sa famille, la vie quotidienne, elle aimerait bien dire « stop ». Mais la vie ne fonctionne pas comme dans les films, d'où cette question « comment font les gens ?». Il y a, dit-on, de faux airs de Virginia Woolf et de François Sagan dans ce livre, et dans la bibliothèque de l'auteur alors. Allons voir. Bonjour Olivia de Lamberterie.
Bonjour Nicolas Caro.
Je rate tous mes bonjours d'habitude. Je suis content avec vous, ça marche bien.
Je suis honorée.
Merci de nous recevoir. On est dans votre appartement, dans votre salon très exactement. On a une vue sur des toits en zinc, c'est chouette. On est très haut, on est au 6e étage. Heureusement, il y avait un tout petit ascenseur dans lequel Fabien Duchesne, l'ingé son, a réussi à rentrer avec sa console portable qui est très très lourde comme ça, mais il préfère ça que les 6 étages à pied quand même. Même si je lui file des coups de main.
C'est une chose que je préfère dans cet appartement. C'est quand on regarde par la fenêtre, on a l'impression que c'est un dessin de Sampé.
Ah oui, exactement.
Et si vous vous retournez, vous avez un dessin de Sampé encadré derrière vous qui est le plus grand génie de ma vie.
Absolument.
Et un bon génie.
Ben, je partage cet avis. Alors, je m'attendais à beaucoup de livres. Et je ne suis pas déçu. Et surtout, je ne suis pas déçu par le meuble en lui-même de la bibliothèque qui est très joli. Donc là, j'ai dit, on est dans le salon avec un côté, un canapé, des fauteuils. Et puis de l'autre côté, il y a un escalier qui traverse le salon et qui barre une immense bibliothèque qui monte très très haut. Ce qui fait que c'est très agréable parce qu'à la fois, on a accès aux livres du bas depuis le salon. Et puis, on peut monter comme une sorte de montagne avec une surprise à chaque étape pour monter jusqu'en haut des livres et se servir très simplement au lieu d'avoir à utiliser une échelle en bois qui fait chic, mais dont on ne se sert jamais parce qu'elle n'est pas très sûre.
Exactement, j'aime bien l'idée que les livres fassent partie de la vie. Donc effectivement, on n'a pas besoin d'une échelle pour aller chercher le livre qu'on ne trouve jamais. Et comme ils sont effectivement, la bibliothèque file le long de l'escalier, régulièrement, je change les livres pour voir en montant l'escalier des livres amis. Ou des livres qui me font plaisir, ou donc comme ça, quand c'est toujours une sorte de petit réconfort de voir des livres que j'aime.
Mais alors justement, comment elle est classée cette bibliothèque? Je distingue plus ou moins de l'anglo-saxon d'un côté, du français de l'autre. Est-ce qu'il y a un classement particulier? Est-ce que c'est de A à Z? Est-ce que c'est comment c'est rangé? Comment vous
alors,
faites?
Non,
parce que vous en recevez énormément aussi.
Oui, c'est un peu rangé. Là, vous êtes devant la partie consacré aux anglo-saxons, les Américains, les Anglais, qui ont été pour une grande part dans vraiment mon goût pour la lecture. Je trouve que quand on a 16 ou 17 ans, j'adore les gens qui disent qu'à 16 ans, ils ont adoré Madame Bovary. Moi, j'avais trouvé que cette femme qui s'ennuyait, c'était quand même un peu ennuyeux. Alors que quand on a 16 ans et qu'on lit Salinger ou Kerouac, je trouve que ça vous parle. Je trouve que c'est une porte d'entrée dans la littérature qui est absolument géniale.
Alors sur la route, là, que je viens de prendre, une édition Folio.
Il est tout jaune.
Il est tout jauni, ouais. Un peu avec les pages qui rebiquent.
Oui.
Il a été beaucoup lu. Est-ce que c'est celui que vous avez lu ?
Je pense que c'est celui que j'ai lu.
Vous vous souvenez de votre rencontre avec Kerouac ?
Pas précisément, mais je me souviens du sentiment que j'ai eu que la littérature, c'était la vie. Voilà, Madame Bovary, après j'ai adoré, hein.
Oui,
mais pour moi,
aussi, oui.
Madame Bovary, c'était pas la vie, elle était pas vivante, elle était, au contraire, elle était une mort vivante.
Oui.
Alors que tout d'un coup, vous lisez ça, vous avez envie de partir aux États-Unis, vous avez envie de vivre. Je trouve que ce qui est très important pour moi dans mon rapport à la littérature, c'est ça, c'est sans arrêt les passerelles qu'il y a entre la littérature et la vie.
Il y a beaucoup de Kerouac à droite, à gauche. Effectivement, ils sont pas rassemblés.
Oui,
les poches sont... Ah, il y a un autre sur la route.
Ah bah parce que après j'ai reçu une autre édition et je me suis dit, ah mon Dieu, c'est une nouvelle traduction, donc quand je serai très vieille et que j'aurai rien à faire, je regarderai la nouvelle traduction. Ce que j'aime bien aussi, dans les, quand je range les livres, bon, vous avez quand même un tout petit peu d'ordre alphabétique, mais j'aime bien mettre des gens que j'aime à côté.
Ah oui.
Pour faire des amitiés. Par exemple, j'adore Laura Kosciuszko. Esprit divers, c'était merveilleux, c'était très angoissant. Et une de mes écrivaines préférées au monde, c'est Siri Husvedt. Et vous voyez, j'aime bien les mettre ensemble. Je trouve qu'elles pourraient être amies, toutes les deux. Siri Husvedt, il doit y avoir quelque part un de mes livres préférés au monde. C'est toujours comme ça, quand on le cherche, on ne le trouve pas. C'est Tout ce que j'aimais.
Ah.
Ça, je peux le mettre
en
épitaphe. C'est d'abord, je trouve qu'elle écrit divinement bien. Elle écrit mieux que son mari, Paul Auster. Et pour moi, c'est le grand livre. J'adore Paul Auster.
Oui, hein, attention, parce
blague.
Que j'étais
non.
en train de préparer une réplique.
Non, c'était une blague. Mais elle écrit aussi. Elle est une écrivaine aussi importante que Paul Auster. Je dis ça parce que quand vous avez un couple d'écrivains, vous avez toujours le grand écrivain homme et puis l'écrivaine charmante femme. Et c'est une grande, grande écrivaine. Pour moi, c'est le grand livre du couple, de l'amour, avec tous ses ravages. Et puis, il y a une histoire absolument qui vous fend le cœur avec un enfant pas comme les autres. C'est aussi d'ailleurs sur les relations de l'art et de la littérature.
Il y a une photocopie d'un texte qui est collé au milieu du livre.
Oui.
Qu'est-ce que c'est ?
Parce
alors,
que j'aime
je peux
tellement
à peine
ce
le lire
livre.
À l'antenne, là.
J'aime tellement ce livre que un jour, il y a une fille dans le milieu de l'édition qui s'appelle Audrey Sur et qui avait organisé une séance de lecture musicale à la Maison de la Poésie, qui avait donné lieu d'ailleurs aussi à un disque. Et j'avais dû choisir un de mes livres préférés, et j'avais choisi ce livre. Et j'avais été avec Bernard Lehu,
qu'on salue.
Exactement, un confrère, et avec Augustin Trapenard, et nous avions lu à la Maison de la Poésie, et c'était absolument génial.
Alors, on continue un peu chez les Américains, parce que je cherche depuis tout à l'heure discrètement, et j'échoue, Mrs. Dalloway, de Virginia Woolf.
Il est à W, Nicolas. Là, vous êtes dans les B.
Non,
donc mais... là, vous arrivez à la fin de l'alphabet.
Ah, mais c'est quand même classé un peu par ordre alphabétique,
alors.
Ah, mais
c'est classé complètement par ordre alphabétique. Après, bon, mais vous avez du A comme Margaret Atwood, très important. B comme William Boyd, que j'ai adoré vraiment à livre ouvert, c'est un de mes grands livres. Vous avez du D comme John Didion, L'année de la pensée magique, libre fondateur. Vous avez
B comme Banks.
Exactement.
C'est
et
à peu
après,
près par ordre alphabétique.
Oui, là vous avez du L, ça c'est une écrivaine qu'on lit plus. Je me demande si elle n'est pas morte l'année dernière, que j'ai adoré chez Rivage étranger. Alison Lurie.
Je ne connais pas.
Oh, c'était une des premières qui faisait du... comment ça s'appelle, du campus book.
Campus novel.
Campus novel, exactement.
Donc des romans qui se passent dans les universités américaines.
Et c'était des liaisons sentimentales entre des professeurs qui venaient faire des colloques. C'était des colloques sentimentaux, voilà, autour d'Henry James. C'était vraiment très très bien.
Alison
il faudrait la redécouvrir. C'était drôlement bien.
Il faut lire lequel, parce que là il y en a 5 ou 6.
Oui, vous en avez beaucoup. Liaison étrangère, vous voyez, il a été beaucoup lu. C'était très très bien. C'était à la même époque que le grand succès de David Lodge. Mm-hmm. C'était un peu la même famille de pensée que David Lodge.
C'est étonnant, ça, ces écrivains qui quittent la scène d'une certaine manière, dont on ne parle plus beaucoup. Enfin, je dis ça se trouve, tout le monde en parle sauf moi, mais...
Non, elle a un peu disparu. J'ai l'impression qu'on l'a rééditée l'année dernière. Vous voyez, là...
Il y a un mystère et une forme d'injustice là-dedans aussi.
Ah, bah, y a
pour
des
les
modes,
succès comme pour les voilà, disparitions.
Il y a des succès, des modes, des disparitions. C'était rigolo, hier j'étais à un dîner, une sorte de dîner littéraire, et tout d'un coup, je ne sais pas pourquoi, on a beaucoup parlé de Marguerite Yourcenar. Et Marguerite Yourcenar était... Elle est un peu tombée en désuétude.
On connaît le nom, mais elle est devenue un peu, oui, désuète, c'est ça.
Aujourd'hui, son œuvre n'est pas tombée en désuétude, mais elle est moins à la mode. Mmh. Voilà. Aujourd'hui, il n'y en a que pour Beauvoir. Et moi, je pense que Yourcenar est meilleure écrivaine que Beauvoir. Peut-être moins importante dans l'évolution des idées et dans l'histoire de la femme. Et je me suis dit, ah, ça serait vachement bien qu'il y ait une sorte de revival Yourcenar, parce qu'il y a des choses merveilleuses.
Ça compte un livre qui change un peu le monde ? C'est un des critères ?
Alors, c'est une question qu'on vous pose tout le temps, quand vous lisez tout le temps, on vous dit, est-ce que les livres, ça change le monde ? Alors, moi, j'ai coutume de répondre que, en tous les cas, ça change les lecteurs. Et quand même, ce que je trouve intéressant, c'est que ces dernières années, ce qui a changé, les grands mouvements de société ont été quand même insufflés par les livres, puisqu'il y a eu le consentement de Vanessa Springora, mmh, qui a changé la manière dont on a envisagé justement les relations entre les hommes et les femmes, et évidemment La famille agrandie de Camille Kouchner, mmh, que je trouve intéressant par évidemment la force du sujet, mais aussi par le fait que j'ai trouvé que Camille Kouchner, elle était un vrai écrivain, que c'était un livre qui était extrêmement bien écrit. Et aujourd'hui, personne n'envisagerait l'inceste comme avant La famille agrandie. Ce qui prouve que oui, les livres, ça change le monde.
Mais ça, ce sont deux récits, pas des romans. Est-ce que c'est... Vous faites la distinction d'ailleurs ou pas forcément ?
Moi, je trouve qu'il faut arrêter de faire une distinction entre les romans et les documents, pour le dire grossièrement, ou les romans et les récits. Je trouve que la distinction des Américains entre fiction et narrative non-fiction me semble plus pertinente. Je ne comprends pas qu'on n'ait pas donné le prix Goncourt à Philippe Lançon pour Le Lambeau, sous prétexte, alors le prétexte, ou en tous les cas, la raison invoquée, c'était que ce n'était pas un roman, mais c'est tellement de la littérature que roman, récit, là le livre de la rentrée que j'ai lu qui m'a le plus interloqué, et pourtant c'était des articles de journaux enrichis, c'est V13 de Emmanuel Carrère, hein, qui raconte le procès du Bataclan.
Là, il y a le Philippe Jaénada qui est typiquement
exactement
de la narrative non-fiction.
Exactement.
Et moi, quand j'en parle, je dis... C'est de la narrative non-fiction, c'est-à-dire, etc., etc. Parce qu'on n'a pas l'équivalent français, on pourrait dire, de la non-fiction narrative.
Oui.
Mais bon, c'est vrai que c'est étonnant qu'on n'ait pas ce
mot-là. Voilà, est-ce que c'est un roman ? Est-ce que c'est un récit ? Et moi, je me rends compte quand même, avec le temps, que ce qui m'intéresse le plus, c'est ce genre de récit hybride, parce qu'on est justement dans quelque chose de la vraie vie. Et puis en même temps, j'adore aussi le pur divertissement, l'invention romanesque pure me fait rêver. Mais mon grand coup de cœur de la rentrée,
Monica Sabolo.
C'est Monica Sabolo, La vie clandestine, qui mêle un récit très personnel avec une enquête autour des filles d'Action Directe. Et je trouve que c'est fascinant parce que ça montre comment quelque chose que vous semblez, qui vous semble très extérieur, comme elle, les membres d'Action Directe, elle connaît rien à ce sujet au début du livre, vont en fait lui révéler sa propre histoire.
On a digressé, mais vous teniez toujours Mrs. Dalloway, dans la main, Virginia Woolf. Je vous en parle parce que j'ai l'impression que c'est un peu votre, votre marraine en littérature. Je parle de, pas de, de la journaliste, je parle de la romancière. Là.
J'ai deux boussoles, elles sont là. C'est Virginia Woolf et Françoise Sagan.
Ah, Françoise Sagan.
Virginia Woolf, parce que je pense que c'est la plus grande écrivaine de la planète Terre et même de ses environs. Même si on trouvait des écrivains sur la planète Mars, personne ne serait meilleur que Virginia Woolf. Et Mrs. Dalloway, c'est évidemment pas un modèle, parce que ça serait... Bah, je pense que je suis une autrice humble. Mais en tous les cas, dans le deuxième livre que j'ai fait, Comment font les gens, il y avait cette idée de rentrer dans la psyché d'une femme, hein, et de voir, ce que j'adore, c'est comment d'essayer de raconter comment les pensées s'entrechoquent. Et c'est ça que j'ai voulu essayer de faire. Et Sagan, c'est l'autre modèle, parce que d'abord, c'est une grande styliste. Et je déteste quand les gens disent « Ah, la petite musique de Françoise Sagan, ça, c'est vraiment un truc de misogyne. » C'est une grande symphonie.
Une légèreté grave.
L'œuvre de Sagan. Et j'adore la manière dont elle a de s'emparer des sujets graves avec la plus grande légèreté. Et c'est ce que j'essaye de faire aussi en écrivant. C'est même ce que j'avais essayé de faire avec mon premier livre sur le suicide de mon frère. Il faut jamais rajouter du lourd au lourd. Et puis la seule manière de vivre, c'est d'essayer, moi c'est ce que je pense en tous les cas, c'est d'inventer une sorte de mélancolie joyeuse.
Vous l'avez croisée, Françoise Sagan, déjà un jour ?
Oui, je l'ai interviewée plusieurs fois. Et ça a été le bonheur de bonheur. Je l'ai interviewée pour elle, je l'ai interviewée pour la FNAC. Et elle était aussi géniale que l'image que j'avais d'elle. Parce que Françoise Sagan, il y a vraiment deux choses. Il y a ses romans, que j'aime, et il y a aussi toutes ses réflexions sur la vie. Et là, chaque mot qui sort de sa bouche est intelligent. Sur le couple, sur l'amour, sur l'argent, sur l'ennui, sur Proust. Elle est géniale tout le temps. Elle ne dit jamais de bêtises, contrairement à ce qu'elle veut faire croire. C'est vraiment un esprit... d'un brillant et puis d'une drôlerie. On parlait de... Moi, j'aime quand même quand les gens sont drôles. Et puis aussi d'une bonté d'âme. Elle a une phrase que j'adore. Elle dit que les gens vraiment intelligents ne sont jamais méchants. Eh bien, c'est vrai.
Puis elle a une diction un peu heurtée, comme ça, qui ajoute à son charme, je trouve. Si on a le temps, on va écouter, on le fait jamais, mais 15 secondes de Françoise Sagan pendant cette séquence. On demande à Boris de nous placer quelques mots de Françoise Sagan, parce que moi, parfois, à mon bureau, si j'ai 5 minutes, je réécoute des extraits d'interviews de Françoise Sagan. Son ton, sa diction, ça m'apaise, en fait.
Ah bah, génial.
Elle parle de Paris au mois d'août.
Ah oui, absolument.
Quelque chose que j'aime beaucoup, parce que comme ça, puis, elle hésite, puis elle ne sait pas bien si c'est ce bon mot qu'elle a utilisé ou pas. Comme si elle écrivait en même temps qu'elle parlait.
Paris au mois d'août, c'est une ville délicieuse, parce qu'elle est... Elle est un peu vide, un peu, on peut rouler comme on veut, parce qu'on revoit la ville et ses monuments et ses rues, ses avenues comme on a envie de la voir. Et moi, personnellement, j'ai très souvent passé le mois d'août à Paris par goût, parce que c'est tranquille. Si on veut rouler dans Paris en voiture, c'est toujours effrayant pour aller d'un endroit à l'autre l'hiver. Et là, c'est comme si Paris était une ville ouverte. On se promène en voiture décapotable si on veut, on fait des rencontres dans les rues, on parle un peu n'importe qui. Je sais pas, c'est un côté un peu paresseux, un peu ouvert, j'aime bien.
Il y a un de mes livres préférés. Alors ça, c'est un des livres que j'ai en version poche et que j'ai à côté de ma porte, chez moi, et que je donne aux copains comme un paquet de bonbons à emmener. C'est David Thomas, Le poids du monde est amour. C'est le maître de la microfiction.
De la microfiction, exactement.
Ouais, des histoires qui durent une page ou deux max.
Et il a l'art de vous raconter... un geste, où c'est comme David Thomas, comment on pourrait dire aux gens, c'est comme si vous allez dans un musée et David Thomas, il regarde tout sauf les tableaux et il vous raconte les gens qui regardent les tableaux et il le fait avec un esprit, un humour.
Il en fait des petites
photos.
Comme
ça. Oui, David Thomas, c'est extraordinaire.
Ah oui, il est coché partout, celui-là.
Ah oui, oui, bah
corné,
oui.
Corné, coché.
Bah oui.
Magnifique. Et alors, celui-ci est encore plus impressionnant que les autres, parce que d'habitude, c'est des histoires un peu disparates. Là, c'est la structure des histoires d'amour, c'est-à-dire c'est des gens seuls, puis des rencontres, puis des histoires elles-mêmes, puis des séparations ou des histoires qui durent.
Exactement.
Il a fait tous les sociotypes.
Tous les états amoureux. Et c'est là où on voit qu'il est grand, parce qu'il savait aussi bien raconter la rupture que le coup de foudre. Ah oui, c'est très bien, David Thomas.
Poids du monde est un amour. Il y a du Kessel aussi, et juste avant d'allumer les micros, parfois je demande, est-ce qu'il y a un livre à côté duquel il ne faut vraiment pas qu'on passe, ce serait dommage. Et vous m'avez dit, Kessel, Le Tour du Malheur 2.
Ah là, vous avez le 2, parce que le 1 doit être quelque part. Mais
Les Lauriers Roses, L'Homme de Plâtre. Je ne le connais pas, celui-là, et il faut que je le lise, parce que vous m'avez dit, c'est mon livre préféré au monde.
Oui, parce que c'est un livre que mon grand-père adorait, mon grand-père maternel, et qu'il nous offrait quand on était adolescent, et que ma sœur aînée a lu, mon frère a lu, nos neveux, nos enfants, mon fils aîné l'a lu. Et c'est rigolo parce que je l'ai relu il n'y a pas très longtemps, et je me disais, mais comment est-ce que on nous laissait lire ce livre? C'est l'histoire d'un avocat. Alors, sur plusieurs décennies, ça commence avec la Première Guerre mondiale. Et un avocat extrêmement séducteur. Il y a des scènes d'amour, il y a des scènes de drogue. Mais dans ma famille, je pense qu'on pouvait tout lire. Il n'y avait absolument aucune interdiction. Et c'est intéressant parce que c'est le livre considéré par tout le monde comme le livre raté de Kessel. Alors qu'en fait, c'est son livre le plus autobiographique, dans lequel il a mis il y a des portraits de ses parents, et surtout, c'est l'histoire de deux frères, et il y a le drame, la tragédie de Kessel, qui est le suicide de son frère. Et donc, je pense que c'était le livre que Kessel aimait le plus, et qui a été le plus mal aimé par la critique. Et ce qui est sidérant, c'est que ce livre, vraiment, qui est un livre familial, on peut presque s'en réciter des morceaux. Et il y a pas, et je m'en suis rendu compte il n'y a pas très longtemps, et je me suis rendu compte que c'était aussi le livre de notre famille, puisque mon frère s'est suicidé. Et tout d'un coup, il y a une espèce de vertige à me rendre compte de cette symétrie. Mais je pense que Kessel est un écrivain immense, qu'il est bien meilleur que Romain Gary, qui est le héros des Français, et qu'un jour, on va s'apercevoir... Il y a une mode Romain Gary. Alors, il est rentré dans la Pléiade l'année dernière, Kessel, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont pas mis Le Tour du Malheur dedans.
Et Le Tour du Malheur, c'est quand même un titre fantastique. Mais donc, on ne commence pas par le tome 2 en version poche, Les Lauriers Roses. On commence par le premier.
Évidemment, par le premier, qui doit se promener quelque part dans la bibliothèque.
Magnifique, je le repose à sa place pour pas le, faudrait pas qu'il se perde dans la jungle des bibliothèques.
Merci beaucoup
Olivia de Lambertery.
Merci Nicolas.
À bientôt.
Et je rappelle le titre du nouveau roman d'Olivia de Lambertery, Comment font les gens? C'est chez Stock. D'autres livres encore dans un instant pour les plus jeunes, pour les bédéistes et le coup de cœur de la libraire Amandine Cole. À tout de suite.
Europe 1. 14h-15h, La Voix est livre.
Nicolas Carreau.
Dernier chapitre, épilogue de La Voix est livre, avec Héloïse Goy pour la littérature jeunesse, Sébastien Bordenave pour la bande dessinée, et notre libraire de la semaine, l'indispensable Amandine Cole, librairie de Paris, à Paris donc, place de Clichy. Bonjour à tous les trois.
Bonjour Nicolas.
Bonjour Nicolas. Bonjour Nicolas.
Et on commence avec vous Amandine, vous avez un roman?
Oui, un roman écrit par Muriel Barbery, qui s'appelle « Une heure de ferveur » aux éditions Actes Sud.
Muriel Barbery, c'était l'élégance du hérisson.
Exactement, son premier livre dans lequel justement revenait déjà le Japon, qui est un peu sa grande passion.
Gros tropisme.
Exactement, et elle a d'ailleurs vécu un certain temps à Kyoto. Et en 2020, elle a écrit un livre qui s'appelle « Une rose seule », qui est l'histoire d'une femme d'une quarantaine d'années qui se découvrait un père japonais. Et ce père japonais, qu'elle n'aura jamais connu, l'invitait après sa mort à visiter le pays. Et donc ce livre était paru en 2020. Et cette année, pour la rentrée littéraire, est sorti un livre qui s'appelle « Une heure de ferveur ». Et on
la
avait
suite.
Alors, c'est plus de l'ordre du diptyque, puisqu'on peut vraiment lire l'un sans avoir lu l'autre. C'est le point de vue du père, justement. Et donc, cet homme qui s'appelle Haru Ueno, il est marchand d'art à Kyoto. Et cette passion lui est venue parce qu'il a été un jour foudroyé par la beauté et donc il a décidé d'y consacrer sa vie. Et toute sa vie, il aura eu cette douleur absolument secrète d'avoir eu une fille française donc, que sa mère lui aura toujours interdit de connaître. Et toute sa vie va se poser la question de qu'est-ce qu'on laisse en héritage à quelqu'un qu'on ne connaîtra pas, qu'on ne verra jamais, qui ne nous connaîtra pas non plus, et surtout à qui on ne peut pas laisser vraiment des objets ou des choses. Et donc, il va commencer à avoir une sorte de conversation silencieuse avec elle.
Et qu'est-ce qu'il va lui laisser? C'est le suspense du livre?
C'est... Alors, c'est pas forcément ça, c'est plus... quels sont les lieux après qu'il aura habité, qu'elle va pouvoir découvrir? On est plus sur quelque chose d'assez contemplatif, justement.
Parfait.
Un peu plus japonais.
Comment ça s'appelle déjà?
Une heure de ferveur de Muriel Barbery.
Chez Actes Sud.
Chez Actes Sud.
C'est bien ça. Héloïse Goy, encore de la beauté avec vous.
Oui, de la beauté et de l'humour, hein, avec les aventures de moi-même. Alors, au risque de vous décevoir, non, je ne vais pas vous raconter mon quotidien palpitant. Les aventures de moi-même, c'est un roman de Charlie Delwart, un auteur belge qui écrit aussi...
On ne dit pas Delwart.
Ça, je ne sais pas. Vous mettez des bâtons dans les roues. Je crois qu'on dit Delwart à la belge. Et c'est illustré par Ronan Badel. Ce roman nous raconte les péripéties de Gaspard, 10 ans, alors, comme tout petit garçon de 10 ans qui se respecte, Gaspard n'est absolument pas intéressé par l'amour parce qu'il a plein d'autres choses à faire dans la vie, comme jouer au foot, traîner avec ses potes. Sauf que tout ça, c'était sans compter sur l'existence de Julia. C'est une petite nouvelle que Gaspard rencontre en CM2. Quand Julia passe la porte de sa classe pour la première fois, Gaspard a l'impression qu'on lui a mis du poil à gratter dans le cœur. Il est paralysé, il est foudroyé, il est amoureux. Vous vous rappelez de votre tout premier amour, vous?
Oh oui. C'était il y a 15 jours.
J'ose à peine demander votre âge. En tout cas, pour Gaspard, c'est 10 ans. Et lui, ça ne l'arrange pas du tout de tomber amoureux. C'était pas du tout dans ses plans. Sauf qu'il réalise qu'arrêter d'être amoureux, c'est presque aussi difficile que d'arrêter de se ronger les ongles. Alors Gaspard élabore des plans, comme changer d'école ou se persuader qu'elle pue des pieds.
Ah, c'est la fuite.
C'est ça. Bon, ça marche pas super. Ça marche jamais très bien, la fuite. C'est pas recommandé. Alors, pour apprendre à gérer ce coup de foudre, Gaspard va poser des questions à ses parents et à sa petite sœur de 7 ans qui, en fait, n'en a rien à faire parce qu'elle est dans sa phase Greta Thunberg en ce moment. Et son entourage pointe du doigt une question qui n'arrange pas du tout Gaspard. Question pourtant essentielle. Est-ce que elle, Julia, est amoureuse de lui?
Eh oui.
Et ben voilà, je vous laisse découvrir... la réponse, et si les plans de Gaspard vont porter leurs fruits. Ce roman sur les toutes premières amours, c'est drôle, c'est attendrissant, ça s'adresse aux enfants dès 9 ans. Et parce que je suis un peu jalouse des citations que trouve Sébastien pour chacune de ses chroniques, est-ce que vous voulez bien, me demander, Nicolas, vous n'auriez pas une citation pour Héloïse?
Vous n'auriez pas une citation, Héloïse, comme Sébastien Bordenave?
C'est drôle que vous me demandiez ça, parce que j'en ai prévu une. C'est l'épigraphe du roman dont je vous parle. « Il n'y a qu'un remède à l'amour, aimer davantage », c'est le philosophe Henri David Thoreau qui a écrit ça, et il a bien raison.
Magnifique.
Faut en trouver une toutes les semaines maintenant.
D'accord, je prends.
On peut relire d'ailleurs en ce moment Walden de Thoreau, où c'est un type qui part comme ça dans la nature et qui refuse le monde tel qu'il est, mais c'est très beau. Okay. Sébastien Bordenave, donc je rappelle, votre premier amour c'était il y a 15 jours, ça fera plaisir à votre dame que vous connaissez depuis au moins allez, une dizaine d'années,
oui, voilà,
minimum.
Bon. C'est pour faire un bon mot.
Allez-y.
Au programme du manga.
Parce de que la beauté j'ai... aussi, parce que votre livre est magnifique, mais je vous laisse le décrire.
Eh bien, écoutez, c'est du manga, parce que oui, j'ai eu un très gros coup de cœur, et surtout parce que c'est une terrible injustice que Nicolas, en France, on ne connaisse pas plus que ça, Osamu Tezuka. En Europe, il y a Hergé, aux États-Unis, il y a Walt Disney, et au Japon, il y a Nicolas. C'est marqué dessus. Osamu Tezuka. Il y a Osamu Tezuka.
Je crois que c'était un piège.
Osamu Tezuka, il a tout inventé. C'est lui le premier qui a fait des personnages de manga avec des grands yeux. C'est lui le premier qui a produit des dessins animés japonais au Japon. Comment il a fait? Il a réduit les coûts de production en passant de 24 images dessinées par seconde à 8. C'est pour ça que encore aujourd'hui, les mangas, ils ont un petit côté parfois un peu figé. Bref, c'est le pape du manga moderne. Et si vous voulez essayer du Tezuka, Delcourt a eu l'idée géniale de sortir Phénix, l'oiseau de feu, tome 1. C'est une épopée incroyable que Tezuka a commencé à dessiner en 1954. L'histoire est simple, c'est celle de Phénix, l'oiseau de feu. Si vous le tuez et que vous buvez son sang, vous devenez immortel. Donc je ne vous cache pas que la chasse est ouverte. La BD est d'un dépaysement total. On pourrait croire que c'est un peu pour les enfants, mais en fait, il y a des moments bien déstabilisants.
Le héros, il ressemble à Astro, le petit robot.
C'est lui. C'est Osamu Tezuka qui a dessiné Astro.
Mais qu'est-ce que vous êtes fort, Nicolas.
Voilà. Donc allez-y, les yeux fermés, Nicolas. C'est comme si vous aviez 40 ans et que vous.
Les yeux fermés pour lire ça.
Oui, les yeux fermés. Ouais.
800 pages.
800 pages, mais c'est, franchement, ça passe super vite. C'est comme si vous découvriez à 40 ans Tintin ou Mickey, c'est pareil. Voilà. Et puis j'avais un autre manga aussi qu'on m'a envoyé. Magnifique. Je voulais vous en dire deux mots parce qu'il pourrait paraître anecdotique ce manga comme ça, mais il m'a vraiment fait rire. Alors je ne suis pas sûr que ça soit le but initial, mais bon, ça s'appelle Rooster Fighter, coq de baston, édité chez Mangetsu. Alors c'est un manga classique, il y a une ville qui est attaquée par des monstres gigantesques, les humains ne savent pas trop quoi faire. Heureusement, il va les combattre avec puissance et furie, ces monstres, qui, eh ben, un coq de combat. Il coq est sublime, il est musclé, c'est un coq de combat. Il va s'allier avec une tortue millénaire pour battre les kaijus. Alors les kaijus, c'est un mot...
C'est Godzilla.
Exactement,
et tout ça.
Godzilla, King Kong, Gérard Larcher. Bref, coq de baston, si vous avez envie d'un manga anti-prise de tête, eh ben, c'est pas mal du tout. Voilà.
Coq au vin de baston pour
oui.
Gérard.
Oui.
Et il est magnifique, il est de profil, le coq de baston, là, il a l'air pas
mais
sympa.
Mais c'est un coq de la taille d'un vrai coq. C'est pas un coq géant.
Et c'est un tout petit coq, mais maxi puissance.
Ah, ouais. Ok, Rooster Fighter, yes. Coq de baston. Phoenix, l'oiseau de feu, c'est chez Delcourt de Osamu Tezuka.
Et bravo.
Héloïse Gouin.
Les aventures de moi-même, journal du grand amour de Charlie Delwart et Ronan Badel, c'est chez Flammarion Jeunesse.
Parfait. Et Amandine Cole.
La très belle écriture de Muriel Barbery dans Une heure de ferveur aux éditions Actes Sud.
C'est parfait. Comment ça se passe la rentrée, la place de Clichy? Il y a du monde, il y a des coups de cœur qui émergent comme ça dans votre librairie. On voit les favoris qui se dessinent.
Oui, on a pas mal de coups de cœur. C'est une très, très belle rentrée.
Vous en avez comme ça, les trois là, comme ça, qui surgissent.
Alors, il y a le Homme de Emmanuel Richard aux éditions de l'Olivier, que moi j'ai vraiment beaucoup aimé. Cet incroyable premier roman d'Anthony Passeron, Les enfants endormis aux éditions Globe, dont tout le monde parle.
Qui est plutôt un récit d'ailleurs.
Oui.
Qui raconte les années 80 et l'apparition du sida.
Exactement.
Qui a eu le prix Première Plume d'ailleurs, au Furet du Nord de Lille.
Et je pense que ce ne sera pas le seul prix qu'il aura cette année.
C'est vrai qu'il y a comme ça des phénomènes de rentrée parfois, et lui, c'est la caricature du phénomène de rentrée. Quoi. Il est arrivé de nulle part, paf !
Ouais, tout le monde s'en est emparé et a juste raison. Et c'est une très belle année de premier roman, puisque vous avez aussi Claire Baglin en salle aux éditions de Minuit.
Chez Minuit.
Exactement, qui est parfait.
Parfait, et je rappelle le titre du roman de notre invité Nicolas Rey, Crédit illimité au diable Vauvert. Merci beaucoup à Agnès Vaudin pour la préparation de cette émission, Grégory Delpeuch pour la programmation musicale et à la réalisation Boris Pachinski, bien entendu, l'homme aux doigts de fée. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres livres. Salut.
Europe 1, 14h-15h, La Voix est libre.
Nicolas Carreau.